Bonsoir à toutes et tous, c'est Quasar on the air sur l'antenne de Radio G 101.5 FM avec vous pendant une heure. Les temps sont durs, mais je vous assure que vous pouvez être un bon millier rassemblés devant vos ordinateurs, vos téléphones, vos box, vos chaînes IFI et pour les plus âgés, votre bon vieux poste de radio. Pour nous écouter jusqu'à 21h, c'est sans danger et ce n'est pas encore interdit. Bien évidemment, on ne va pas se marrer sur ce qui est en train d'arriver dans notre pays et sur l'ensemble du globe. Le Covid-19 va modifier nos habitudes de vie pendant quelques semaines et c'est déjà bien pesant. Pour beaucoup, le resto, le ciné, le théâtre, c'est déjà terminé. On ajoute à ça les concerts, les compétitions sportives et l'interdiction d'aller voir mémé à la maison de retraite le dimanche. Et c'est clair, on va bien se faire suer. Alors restez à l'écoute de Radio G et Quasar on the air. Avec vous ce soir au micro ou au téléphone, l'éclairer, l'informer, la cultiver, mais aussi ce soir l'enrhumer, Anne. Anne est donc chez elle au chaud et avec nous, normalement, si tout va bien, par téléphone. Bonsoir Anne.
Bonsoir à tous. Bon, je n'ai pas le coronavirus, j'ai un rhume.
Ah, ben, écoute, reste au chaud et puis tout de suite dans l'émission. Avec nous aussi au micro et à la technique ce soir, le passionné, l'engagé et parfois l'énervé, Stéphane. Bonsoir Stéphane.
Salut tout le monde.
On retrouvera Mohamed et Achille dans une quinzaine. Ils ne pouvaient pas être là ce soir, alors pour faire nombre et soutenir vos serviteurs, Nicolas, le tout premier président de Quasar, toujours adhérent, toujours présent. Merci Nicolas d'être avec nous ce soir. Par contre, je suis un peu inquiet. Qui va m'avoir préparé le dîner quand je vais rentrer à la maison ce soir, mon chéri?
Bonsoir. Comme d'habitude, burger, frites, sauf que je pourrais pas le faire croire que c'est moi qui les ai faits.
Voilà. Bah, tant pis. Écoute,
on se dirait un peu à l'EHPAD finalement. Ouais, on peut pas aller voir les pépés, les mémés, mais on vient voir les papy.
Au programme de cette émission, l'actualité LGBTI dans le monde et en France, une tribune de Quasar. À l'occasion des élections, je précise que nous ne donnons ni conseils ni recommandations. Nous n'en avons pas le droit et Quasar ne le fait pas. On estime que vous avez assez de discernement pour évaluer les candidats. En revanche, on vous parlera d'une association qui vient de donner sa consigne de vote et on vous lira le communiqué que Quasar publie à cette occasion. Une tribune contre le pinkwashing local pratiqué par l'association Le Refuge. Stéphane nous parlera des interventions en milieu scolaire et de l'actualité de votre centre LGBTI+. Je parle bien sûr de Quasar. Et puis à l'occasion de l'agenda de l'association, à la fin de cette émission, on reviendra sur le coronavirus parce qu'il menace aussi nos moments d'accueil et de convivialité et peut-être nos manifestations futures. Donc on vous en reparle à la fin de cette émission. Mais soyez sans crainte, nous n'allons pas plomber votre soirée. Restez avec nous, il y aura aussi, j'en suis sûr, quelques beaux sourire dans cette émission. Donc c'est parti jusqu'à 21h avec Quasar on the air sur Radio G 101.5 FM.
Bon, ok Arnaud, alors donc tu mets ton costume de McFly et on voyage vers le futur, on va se balader au mois de février, c'est ça, côté carnaval, c'est quoi l'idée?
Oui, je vais vous parler de carnaval, mais alors un carnaval sans strass, hein, sans paillettes, juste beaucoup d'homophobes, de racistes et d'antisémites. Je voulais revenir sur les festivités peu festives, mais plutôt abjectes, qui se sont déroulées en février dernier et dont nous n'avons pas eu le temps de parler lors de notre dernière émission. Alors qu'à Alost, en Belgique, on a pu voir des défilés antisémites où l'on caricaturait des juifs orthodoxes en fourmis, où certains, tout sourire, étaient en tenue de déportés de camp de concentration, tantôt avec une étoile jaune, tantôt avec un triangle rose. On pouvait voir aussi des chars rappelant des trains de déportés dont un arborait un rainbow flag à l'arrière. Et cette saison des carnavals de l'horreur s'est poursuivie jusqu'en Croatie. Peut-être avez-vous vu comme moi ces images particulièrement violentes lors de ce carnaval croate dans la ville d'Itmoski. Des poupées géantes à l'effigie d'un couple gay s'embrassant et tenant dans les bras un enfant ont été incendiées. Oui, pour faire la fête et clôturer leur carnaval, ils ont brûlé un couple d'hommes avec leur bébé dans les bras. Un acte filmé et diffusé sur les réseaux sociaux qui a provoqué un vif émoi dans le pays des Balkans et par-delà ses frontières. On y voit la foule autour du brasier qui rigole, applaudit et se réjouit devant la représentation de ce couple d'hommes enflammés, un bûcher qui fait froid dans le dos. Ces derniers temps, ces carnavals sont devenus des lieux de l'expression des plus bas instincts, de la haine de l'autre. Je vous le disais en introduction, quelques jours avant, c'était à Alost en Belgique, on a vu des chars avec des soldats nazis que l'on acclamait et leurs victimes dont on se moquait. Une honte pour le vice-président de la Commission européenne, Margaritis China, qui appelle tout simplement à la suppression de ce rendez-vous belge. Après ces représentations antisémites, c'est la haine totalement décomplexée à l'encontre des homosexuels qui s'exprime en Croatie. Et ce, deux semaines après que la Cour constitutionnelle de Croatie ait décidé que les couples de même sexe avaient le droit d'accueillir des enfants dans le cadre de la procédure de placement familial. La décision faisait suite à des débats houleux dans ce pays de 4,2 millions d'habitants, membre de l'Union européenne depuis 2013 et où l'Église catholique exerce une forte influence. L'association de parents de même sexe, Famille Arc-en-Ciel, a déposé plainte pour incitation publique à la haine et la violence. Devant les réactions internationales, le président croate Zoran Milanovic a condamné ces images et l'organisation de carnaval sur son compte Facebook. Les organisateurs du carnaval ont eux rétorqué ne faire que respecter la tradition. L'un d'eux a déclaré dans un média local: nous restons conservateurs et attachés à la tradition. Un enfant devrait être sous la garde d'une mère. Fin de citation. Un homme qui, selon le média Total Croatia News, a posté en 2015 sur sa page Facebook une photo où on le voit posé à côté d'un tag de croix gammée nazi. De bien vilaines informations pour commencer, désolé. C'est la preuve que tout ne va pas si bien, que les LGBT doivent rester militants et se battre pour la préservation de leurs droits. Rien n'est définitivement acquis, soyez-en sûrs.
Ok, donc le carnaval, ça c'est fait, mais les masques, on en parle toujours un petit peu, mais là c'est pas ce dont tu veux nous parler, je crois pas.
Non, je vais vous parler d'une condamnation, tout aussi abjecte que le fameux carnaval croate et les carnavals belges. Donc agression violente et abjecte dont a été victime une jeune femme. C'est le site Stop Homophobie qui revient sur cette affaire qui date du 8 octobre 2017. Cette nuit-là, après avoir rencontré un garçon place de la République à Paris, une jeune femme de 34 ans qui se présente comme préférant les filles, rentre avec donc ce jeune homme, mais alors qu'elle change d'avis et refuse d'avoir un rapport sexuel, elle lit dans ses yeux la haine soudainement. Avant d'entendre cette phrase: ah, tu kiffes les meufs, je vais te faire kiffer. Fin de citation. Suivront une heure et demie de coups et sévices sexuels jusqu'à ce que le jeune homme finisse par quitter l'appartement en dérobant également une chevalière et la carte bancaire de sa victime. L'auteur de l'agression, un homme de 24 ans, était accusé et jugé pour avoir violé, battu et volé la jeune femme en raison de son orientation sexuelle. Il a été condamné ce vendredi 6 mars à 15 ans de prison, soit la peine maximale, alors que pourtant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis n'a pas retenu le caractère homophobe. Dans son réquisitoire, l'avocate générale avait souligné que l'agression subie par la victime dans son appartement de Saint-Ouen le 8 octobre 2017 avait pour objectif de la détruire parce qu'elle s'était déclarée lesbienne et se refusant à cet homme. Elle dit alors à la cour, je la cite: est-ce que n'importe quelle femme qui se refuse à lui, il l'aurait violée? Non, c'est parce qu'elle refuse son sexe qu'il la viole. C'est à cause de ça qu'il bascule dans la violence. Elle continue, je la cite toujours: 4% des femmes hétérosexuelles disent avoir été victimes de viol, contre 10% des femmes lesbiennes. On ne peut pas faire semblant de ne pas comprendre. Un macho est plus violent avec une lesbienne, a-t-elle lancé, citant à plusieurs reprises l'essai King Kong Theory ou l'écrivaine Virginie Despentes qui évoque le viol qu'elle a subi. Pendant tout le procès, l'accusé a répété ne pas avoir été violent avec la plaignante, assurant que sa préférence pour les filles ne lui posait pas de problème. Il avait déjà été condamné pour trafic de drogue, vol avec violence et était connu de la police pour des faits d'agression sexuelle. L'avocat de la jeune femme, Stéphane Maugendre, s'est quant à lui dit satisfait par la décision, précisant à l'AFP ne pas être déçu que la circonstance aggravante n'ait pas été retenue. Et il dit ceci: il n'y avait que la parole de ma plaignante, ça n'a pas suffi au juré, mais le plus important est que le procès public se soit tenu autour de ce sujet. C'est rarissime et ça a amorcé un tournant. L'expertise médicale effectuée quelques heures après les faits relèvera de très nombreuses plaies sur l'ensemble du corps de la victime, une perforation du tympan et des ecchymoses au niveau du cou et du thorax, et lui accordera 20 jours d'incapacité totale de travail. Lui, il a pris 15 ans et c'est tant mieux.
Ok, enfilons nos chapkas, prenons l'avion et on s'envole pour Moscou.
En effet, on va parler de Vladimir Poutine qui souhaite introduire la mention de Dieu et l'interdiction du mariage pour tous dans la constitution russe. Son mandat s'achève en 2024, mais pour préserver son influence, il a annoncé en janvier dernier de nouvelles révisions constitutionnelles, dont l'inscription dans la loi qu'un mariage n'était possible qu'entre un homme et une femme. Souhait réitéré le mois suivant lors d'une rencontre avec un groupe de travail chargé de plancher sur cette réforme et depuis confirmé par le président de la Douma, la chambre basse du Parlement. Les premiers amendements ont été adoptés à l'unanimité par les députés en première lecture, mais Vladimir Poutine a soumis un texte supplémentaire avec la seconde, la seconde délibération, la plus importante, qui, elle, a eu lieu ce 10 mars. Parmi ces propositions, je vous le disais, l'introduction de la mention de la foi de Dieu des Russes et l'interdiction du mariage entre personnes de même sexe. Plébiscité en consultation par les représentants de toutes les factions et de la société civile, ces propositions, eh bien, ont été adoptées. Alors, juste dans un premier temps, parce que, en fait, ce 10 mars, Le Monde nous apprend qu'en plus, il a fait voter un maintien au pouvoir de Vladimir Poutine après donc la fin de son mandat en 2024. Donc en fait, il a fait voter des dispositions qui vont certainement lui permettre d'être réélu et d'être encore là, peut-être même jusqu'en 2032. En tout cas, ça n'est plus exclu. Et de manière totalement inattendue, Le Monde donc nous révèle qu'avec une célérité inhabituelle, eh bien le Parlement russe a voté un amendement constitutionnel qui permettra à l'actuel président de briquer donc un nouveau mandat et qui a adopté ses propositions donc validées par la Douma. Reste un vote populaire quand même au contour encore flou qui doit être organisé le 22 avril pour adopter ces changements. Tu voulais intervenir, Stéphane ?
Mais oui, vous savez quoi ? Vous écoutez Radio G, c'est Quasar Anzière et place à Catherine Huette maintenant. À toi, Nicolas.
Catherine Huette.
Oui.
Ça vient d'où ça ?
Mais je sais pas. Bon, tu me rappelles Catherine Huette qui faisait les transitions à l'ORTF.
Ça fait plaisir, puis c'est la même génération, forcément. Donc on était en Russie. Est-ce qu'on reste encore un petit peu en Russie ? Je crois qu'il y a un Disney qui sort qui fait parler de lui là-bas.
Oui, alors malheureusement, on va parler de Disney, mais ça va pas être très sympa non plus. Hein. Souvent, quand c'est en Russie et que c'est pour parler d'LGBT. Donc je vais vous parler du studio Pixar, auteur des Toy Story, Le Monde de Nemo, Cars, Ratatouille et autres très grands succès de l'animation. Appartenant maintenant donc à Disney. Il a présenté Pixar son premier véritable personnage LGBT+, dans son dernier film d'animation En Avant. Mais le magazine Têtu nous apprend que la filiale russe du géant américain a décidé de supprimer ce détail. À peine arrivé en Russie, le tout premier personnage lesbien de l'univers Disney subit déjà la censure. D'après le site d'information russe sur le cinéma Kino Poisk, cité par le Moscow Times, en effet, Onward, c'est le titre du film en version originale, a débarqué dans les salles russes jeudi dernier, donc ce 5 mars, mais sans la mention de la petite amie de Spectre, qui est une policière cyclope que croisent les personnages principaux. C'est bien dommage, parce que jusqu'à présent, l'homosexualité dans l'univers Disney n'avait été abordée que par de brèves allusions, mais En Avant, ce nouveau Pixar, film destiné au jeune public, mettant en scène le périple de Yann et Barley, deux frères elfes partis sur les traces de leur père disparu, met enfin les pieds dans le plat. Certes, Spectre n'est pas un des personnages principaux, mais elle évoque sa compagne sur un ton tout à fait banal. Ce serait donc de la propagande homosexuelle, selon les spectateurs qui ont vu l'avant-première, et se sont confiés à Kino Poisk. Pourtant, le doublage russe a complètement effacé ce détail. Le mot « petit ami » aurait été transformé en « partenaire », plus neutre, et le genre de Spectre ne serait pas du tout mentionné. Vraisemblablement, la filiale russe de Disney a voulu éviter de s'encombrer avec des problèmes avant la date de sortie prévue, commente le site d'information russe. Comme le révèle The Moscow Times, c'est au moins la troisième fois qu'une scène LGBT+, de film étranger, se retrouve censurée par le biais de la traduction russe, depuis la loi adoptée en 2013 par le Parlement sur la propagande homosexuelle à destination des mineurs. On pourrait penser que ce n'est pas si grave, un personnage de fiction dans un dessin animé, mais derrière cette censure, au prétexte d'une pseudo-propagande, c'est une volonté de nous effacer qu'il faut relever, et on rappelle que Poutine soutient toujours son ami président de la Tchétchénie qui organise une purge en internant des homosexuels dans des camps comparables aux camps de concentration nazis. À noter aussi, toujours sur les écrans russes, l'an dernier, dans Rocketman, le film biographique consacré à Elton John, les scènes de romance et de sexe gay avaient bien sûr disparu de la version russe. De même, dans Avengers Endgame, un rendez-vous galant homosexuel évoqué par un personnage était devenu un simple dîner. Donc en Russie, nous n'existons pas, ou plutôt, nous n'avons pas le droit d'exister. Et j'en ai fini pour ce soir au sujet de notre tour d'actualité, et c'est au tour de Anne nous raconter ce qui s'est passé cette semaine maintenant sur la planète. On t'écoute, Anne, tu es toujours avec nous ?
Oh oui, je suis là, bien sûr, j'écoute avec passion. Alors, t'as parlé de Disney et de l'extraordinaire, les extraordinaires héros du dernier Disney. Eh bien, sachez que le PDG Disney, Bob Chapek, confirme que Disney aura un engagement accru envers les personnages et les histoires LGBT pour aller de l'avant. Alors bon, les Russes les aident pas, mais Disney essaye en tout cas. La confirmation de Chapek est venue avoir été interrogée par Caroline Farrow de Citizen Go. Elle a demandé, mais maintenant, comme vous le savez peut-être, près de 700 000 personnes ont signé une pétition demandant à Disney de reconsidérer la manière dont vous faites actuellement la promotion de l'idéologie, car c'est une idéologie LGBT, dans beaucoup de vos produits pour enfants. Maintenant, le nombre de personnes signant cette pétition augmente. Elle a poursuivi, nous avons beaucoup entendu parler de la diversité, ce qui est important, et Disney est une entreprise qui représente la communauté du monde entier. Maintenant, il y a des familles comme la mienne, nous avons grandi avec Disney, nous aimons Disney, nous voulons faire découvrir le produit Disney à nos familles, le produit, n'oublions pas. Nous voulons faire confiance à votre marque, mais nous ne nous sentons plus en sécurité. Et oui, car nous attaquons la sécurité des braves gens. Mais bon, il ne faut pas oublier que, si l'on en croit, je crois, Christine Boutin, c'est le coronavirus, c'est nous, hein, quand même, hein, qui l'avons apporté sur Terre. Enfin, bref. Faro, toujours la même. À un moment où votre stock est en baisse de 20%, il est peut-être temps de reconsidérer ce que vous pouvez faire pour rendre Disney plus familial. Donc, elle attaque l'argent, le produit, etc., on le notera. Pour le rendre sûr pour les gens du monde entier, pas seulement une minorité en particulier. S'il vous plaît, n'ayons pas la fierté gay dans les parcs Disneyland, nous dit cette brave dame. Eh bien, Chapek a répondu, figurez-vous. Eh bien, merci pour votre question. Chez Disney, nous croyons fermement que nous devons refléter dans notre contenu créatif la diversité que nous trouvons dans notre base de fans et notre public. Et je crois que cela se poursuivra avec un engagement accru à mesure que nous progressons. Nous voulons représenter notre public. Nous pensons que nous voulons raconter des histoires que notre public veut entendre et qui reflètent sa vie. Il a ajouté, deuxièmement, en termes de cours de bourse, je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le prix de l'action pourrait baisser de 20%. Et cela n'a rien à voir avec le problème que vous avez soulevé. Cela pourrait avoir plus à voir avec le coronavirus et la pandémie mondiale à laquelle nous sommes confrontés. C'est pas mal, hein ? Moi, je trouve que, franchement, ce monsieur Bob Chapek, PDG de Disney, parle pas mal. Qu'en pensez-vous, messieurs ?
Absolument, mais ça va être difficile quand même d'imposer sa vision en Chine comme en Russie. Hein. Visiblement, ça va être très compliqué. Mais
et bien entendu, imposer des visions est toujours extrêmement difficile. Mais, petit à petit, on finit par gagner. Regarde, il y a 400 ans, on nous brûlait. Ça s'est beaucoup amélioré depuis. Seul le soleil nous brûle sur les plages de Ibiza maintenant.
Pas que dans certains pays du monde.
Mais bien sûr que non. Mais bon, si on commence pas, si Disney commence pas.
D'ailleurs, à ce propos, sur le fait de nous brûler. On a loupé le coche parce que comme on est en train de refaire le boulevard Hérault, on aurait dû demander des recherches parce que en creusant sur la place là devant le centre de congrès, c'est là qu'étaient brûlés les homosexuels entre autres et avaient lieu les bûchers à Angers.
Ah ben dis donc, ben voilà. Mais alors là, bon, ils ont pas dû retrouver des ossements. Ils devaient les disperser exprès de peur qu'ils ne reviennent hanter les braves gens, j'imagine en tout cas.
Mais bon, ce soir, on va quand même vous faire sourire, hein, on vous rassure.
Ouais,
bah hein,
oui,
on va
avoir de nouvelles, j'espère. Écoute, moi, je trouve que l'initiative Disney est quand même rassurante.
C'est bien, en tout cas. Oui, c'est sûr. Avec Netflix, c'est vrai que c'est bien de voir que des gens s'impliquent, essaient de faire évoluer les choses. Et Disney, c'est remarquable parce que ça faisait longtemps qu'on attendait. Donc,
très bien. C'est vachement. Moi, je trouve ça très bien. Il faut encourager les bonnes volontés, même si c'est Disney. Alors, une autre news peut-être. La lanceuse d'alerte américaine Chelsea Manning, ça vous dit quelque chose ? A tenté de se suicider mercredi 11 mars, à 2 jours d'une audience sur son refus l'an dernier aux États-Unis de témoigner devant le grand jury dans le cadre d'une enquête sur les WikiLeaks. Prise en charge au centre de détention d'Alexandria en Virginie où elle est détenue depuis mai, Elle a été conduite à l'hôpital et est actuellement en train de se remettre, a précisé le Sparrow Project, une agence de presse et de communication citée par l'agence France Presse. L'ex-analyste militaire doit toujours comparaître vendredi devant le juge d'un tribunal de l'État de Virginie pour répondre à une accusation d'obstruction à la justice, selon le quotidien américain The New York Times et son équipe juridique. Chelsea Manning, 32 ans, avait été incarcérée en mars 2019 pour donc entrave à la bonne marche de la justice après avoir refusé de répondre aux questions sur le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, à qui elle avait transmis en 2010 une masse de documents confidentiels. Elle avait été brièvement libérée en mai 2019 pour une raison technique avant d'être à nouveau emprisonnée quelques jours plus tard. La lanceuse d'alerte reste aujourd'hui très fermement décidée à ne pas participer à cette procédure, très susceptible, selon elle, de conduire à des abus, a fait savoir son groupe de soutien. Madame Manning a déclaré précédemment qu'elle ne renierait pas ses principes, quand bien même cela devrait lui porter de graves préjudices, a insisté le Sparrow Project. Bon, bah, courage, Chelsea Manning. Il faut tenir, voilà. Alors, l'État de New York, toujours les États-Unis, Laetitia James, la procureure de New York, a annoncé le 10 mars dernier que l'État ne demandera plus de preuves médicales pour la reconnaissance du genre. Ainsi, l'État reconnaît pour la première fois le genre légal des mineurs trans. Cette décision a été prise en réponse à un procès intenté par un jeune garçon trans de 14 ans, représenté par Lambda League, une association de défense des droits civiques spécialisée dans les droits LGBT+. D'après Associated Press, le garçon était contraint d'avoir un marqueur de sexe féminin sur ses documents officiels. Il a donc décidé d'attaquer en justice son état de résidence New York pour contester cette réglementation. Plutôt que de le juger au cas par cas, la procureure a décidé de changer la loi de l'État. Voilà. J'aime bien les gens qui prennent des décisions comme ça. Et puis, les Jeux Olympiques. Vous savez que c'est les Jeux Olympiques cette année, à Tokyo.
Oui, absolument. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est prévu pour l'instant.
Oui, alors, bon, la Pride est prévue. Enfin, on continue à prévoir et puis on verra bien. Mais en attendant, le comité international olympique travaille depuis quelques années à un cadre pour les athlètes trans. En fait, ce cadre devrait assurer l'inclusivité, la sécurité et l'équité dans le sport. Il s'appuiera sur les données des recherches scientifiques et sur les droits humains. Le CIO avait espéré terminer pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Mais les épreuves de qualification ne se font pas 6 mois avant les Jeux. Alors, ils ont décidé que le cadre devrait être présenté après cet été. Richard Budgett, le directeur médical et scientifique du CIO, a déclaré que les pourparlers ont été un processus très difficile, un processus très sensible, et il n'y a pas de réponse facile. Ajoutant aussi, tout ce qui sera mis en place bouleversera sans aucun doute beaucoup de gens, d'une manière ou d'une autre. Nous devons trouver un juste équilibre. Aux Jeux de Tokyo 2020, donc bientôt, au moins 3 femmes trans participeront. Parmi les 11 000 athlètes cisgenres, dont la rideuse de BMX Freestyle Chelsea Wolf des États-Unis, la volleyeuse brésilienne Tiffany Abreu et l'haltérophile Laurel Hubbard de Nouvelle-Zélande. Une déclaration de consensus publiée en 2015 permet en effet aux femmes trans de concourir dans les catégories féminines avec une série de conditions. Notamment, l'athlète déclarant publiquement que son identité de genre est une femme, la déclaration ne pouvant être modifiée pendant au moins 4 ans. Ces directives fixent également un niveau autorisé de testostérone dans le sang. Bah écoutez, ça aussi, de ce côté-là, ça va pouvoir s'améliorer. Peut-être, en tout cas. Espérons-le. Et puis, eh bien, écoutez, bah voilà. Pour mes news, en tout cas, c'est tout. Et après, je vous ferai une petite chronique qui parlera de féminisme et de droits et libertés, parce que, bon, le 8 mars, c'était il n'y a pas longtemps. Voilà, messieurs.
Très bien,
encore,
merci, à tout à l'heure.
On va profiter toujours de cette rubrique Actu pour revenir sur... alors, aide-moi Nicolas, c'est son nom, je vais l'écorcher.
Mais dis-moi.
Buttigieg, c'est ça?
Voilà, c'est fait.
Voilà, et tout d'un coup, son prénom m'échappe.
Pete,
voilà, puisque vous avez vu, il a finalement abandonné la primaire. Et il se rallie à qui? Allez, je continue, vous savez?
Joe Biden.
Exactement. Voilà. Bon, alors, de toute façon, c'est très bien qu'aux élections, même s'il avait eu la chance de gagner cette primaire démocrate, il était... peu vraisemblable de toute façon qu'il soit après élu. Bon, je regrette quand même qu'il ait un petit peu parti tôt à l'occasion de cette primaire. Bon, et puis voilà. Puis il n'a pas choisi le candidat que j'aurais choisi si j'avais été américain. Mais de toute façon, moi, dimanche, je vote pour mon maire seulement.
Normalement.
Voilà, normalement.
On verra bien demain soir à 20h, n'est-ce pas?
Absolument, c'est vrai. Et puis on va s'écouter un petit peu de musique maintenant, Stéphane.
Une petite chanson d'amour du groupe gay The Perfume Genius et qui nous chante Sleep Away.
Merci.
Et voilà, c'était donc Perfume Genius et vous êtes toujours sur Quasar on the Air, Radio G 105 sur Angers pour l'émission radio de Quasar.
Merci Nicolas et au micro ce soir, vous l'avez compris, il y a Stéphane. Alors Stéphane, si vous êtes fidèle auditeur de cette émission, vous le connaissez, c'est au sein de l'association le référent du pôle juridique, mais c'est aussi depuis le 25 janvier le président donc du centre LGBTI+ d'Angers et du Maine-et-Loire, Quasar. Et je vous le disais au début de cette émission, donc Quasar publie une tribune concernant la prise de position d'une association l'association. Et donc Stéphane va revenir sur cette tribune. On t'écoute Stéphane.
C'est la tribune concernant les municipales 2020 à Angers. Elle est datée d'aujourd'hui et elle rappelle que dimanche dernier, le 8 mars, Richard Renaud, le délégué régional du refuge basé à Angers, a publié un tweet sur son compte personnel à la fois associatif et je cite « Dimanche prochain, je voterai pour la liste Angers pour vous et Christophe Béchu avec tous les hashtags et qui conviennent. » C'était sur son tweet. Donc, de vrais engagements tenus au premier mandat pour lutter contre l'homophobie et protéger les jeunes LGBT grâce au financement de lieux de vie. Hashtag le refuge Angers pour la ville Angers avec une photo datant d'avril 2018. Alors, nous, pour Quasar, nous estimons qu'un responsable associatif peut tout à fait annoncer le choix de son prochain vote. Ce n'est pas choquant. Cela révèle parfois quand même, en revanche, un sérieux problème de pinkwashing quand l'association en question devient l'argument politique au détriment du fond, c'est-à-dire la lutte contre toutes les LGBT-phobies. Évidemment, Quasar a aussi bénéficié de la mise à disposition d'un nouveau local en novembre 2019 par la majorité actuelle, d'ailleurs laquelle perpétue ainsi la volonté de la majorité de Jean-Claude Antonini, PS à l'époque, depuis les années 2000. Pourtant, Quasar n'appellera pas pour cette raison à voter pour Christophe Béchu, ex-LR, soutenu aujourd'hui par LR et La République En Marche. Il est maire sortant et candidat à sa propre réélection et nous n'appellerons pas non plus à voter pour tout autre candidat. Avec son argument massu, Richard Renaud ne pipe pas par contre un seul mot de la campagne de prévention du ministère de la Santé contre le VIH à destination des gays qui avait été censurée par Christophe Béchu le 21 novembre 2016. Il a plutôt retweeté les photos des sucettes de cou de la campagne d'affichage de son association Le Refuge lorsque a eu lieu son officialisation et son installation à Angers en 2019, emplacement accordé par la majorité sortante sur un des réseaux de sucettes de cou annuels appartenant et attribués à la mairie. Signe évident du changement du candidat Béchu, faut-il comprendre. Ainsi donc, une campagne au bénéfice du refuge ferait oublier ou réparerait la censure d'une campagne de prévention contre le VIH. Elle primerait et ferait sens politique au bénéfice du candidat sortant parce qu'il a soutenu le refuge. Symboliquement, c'est totalement faux. Une campagne du refuge ou de toute autre association LGBTI ne pourra jamais remplacer une campagne publique contre le VIH tellement indispensable à destination du public gay. Dans sa prise de parole publique, le refuge nous fait surtout la démonstration qu'il veut être lui-même l'objet politique consubstantiel avant même la cause qu'il défend. Et là, pour nous, c'est un pinkwashing qui est en roue libre pour le refuge. L'analyse d'une politique municipale en faveur de toutes les personnes LGBT, tout âge confondu, se base d'abord sur l'effet positif et condamnable d'une mandature, et non sur ceux uniquement favorables à une association donnée. Trouver des vertus gay-friendly au candidat sortant pour ses seules largesses envers sa propre association, tout en passant sous silence d'autres événements de sa mandature, en dit long sur le refuge et son principe du pinkwashing. Pour rappel, le pinkwashing, c'est un procédé marketing et d'influence utilisé dans le but de donner une image progressiste et engagée pour les droits des LGBTI+, à un bord politique, en taisant volontairement son homophobie passée ou actuelle. Richard Renaud et le refuge Angers, en minimisant la censure passée qui a certes eu lieu avant leur inauguration Angers, mais dont ils ont eu pleinement connaissance, ne disent pas autre chose que leur accord avec Christophe Béchu. Le maire sortant a décidé politiquement de ce qu'il tolérait dans sa ville, notre ville, à savoir une campagne pour le refuge, mais le maire sortant a aussi décidé de ce qu'il ne tolérait pas dans sa ville, notre ville, c'est-à-dire un message de prévention multiple contre le VIH à destination des gays. Pour rappel, cette campagne a été censurée par le maire sortant en raison de la présence de l'expression « coup d'un soir » qu'il a jugée particulièrement choquante. Quasar a dénoncé et manifesté contre cette censure à l'époque avec de nombreuses associations, des acteurs et des actrices de la lutte contre le VIH, les hépatites et les IST, et ne l'a pas oublié cette censure. Quasar ne peut pas non plus passer sous silence le fait que 5 adjointes de Christophe Béchu, qui procèdent naturellement à des mariages en mairie, est déclaré publiquement le 21 novembre 2016 à Ouest-France ne pas vouloir marier des couples de même sexe à Angers, ce qu'ils ont d'ailleurs appliqué dans les faits sans jamais avoir été sanctionnés par le maire sortant. 4 d'entre d'entre eux, d'ailleurs, se représentent cette année sur la nouvelle liste électorale de Christophe Béchu. Coisard ne peut pas non plus passer sous silence le fait que Maxence Henry, l'adjoint à la politique intergénérationnelle et aux seniors à Angers, ait participé le 6 octobre 2019 à une manifestation de la Manif pour tous contre la PMA, portant son écharpe tricolore d'adjoint au maire d'Angers. Il n'a jamais été sanctionné par ce dernier, alors qu'il ne l'avait pas autorisé, nous a-t-il dit, à le représenter à cette manifestation. Le sens politique du refuge Angers consiste donc à expliquer aux jeunes gays, lesbiennes, bi, trans qu'ils accueillent, que les violences symboliques qui consistent pour les élus à affirmer publiquement refuser de célébrer des mariages des couples de même sexe en raison de leurs convictions et de leurs convictions religieuses, qui consistent aussi pour un élu à se rendre à une manifestation anti-PMA en tant qu'élu, adjoint au maire d'Angers, n'ont finalement pas d'importance. Ces élus homophobes font partie de l'équipe d'un maire qui les a aidés à s'installer sur Angers. C'est ce qui compte. Aimer et voter pour des homophobes, devra-t-on leur expliquer, puisque c'est bon pour le refuge Angers. Véritablement funeste naufrage de la défense des minorités sexuelles à Angers. Coisard ne peut pas non plus passer sous silence le fait que cette installation du refuge, aidée par la majorité actuelle, s'accompagne de l'ouverture d'un centre provisoire d'hébergement CPH, c'est-à-dire le centre lui-même qui est un centre provisoire d'hébergement, géré par le refuge. Et ce CPH est exclusivement réservé à de jeunes réfugiés, garçons ou filles, LGBT ayant obtenu leur statut et bénéficiant de la protection de la France. Coisard, association de défense des personnes lesbiennes, gays, bi, trans, engagée depuis plus de 9 ans dans l'aide aux migrants et migrantes LGBTI, est opposée à toute structure d'accueil exclusivement LGBTI, tant au bénéfice de réfugiés, de CPH, que demain, des demandeuses et demandeurs d'asile dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile, des CADA. Coisard s'oppose à tout outing forcé des personnes ayant fuient leur persécution dans leur propre pays d'origine en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, en les obligeant à intégrer des centres d'accueil de demandeurs d'asile 100% LGBTI, ce qui ne manquera pas de les révéler comme étant des personnes LGBTI elles-mêmes. Coisard plaide pour un accueil universel de tous les demandeurs et toutes les demandeuses d'asile en France, des solutions de protection des personnes les plus vulnérables parmi les personnes LGBTI existent et sont déjà expérimentées quotidiennement en France et elles fonctionnent. Elles ne nécessitent certainement pas ces dispositifs qui ne visent qu'à un affichage politique bâti sur l'émotionnel, aidé en cela par le refuge, et qui ne mesure pas les conséquences désastreuses imposées aux personnes que l'on dit vouloir protéger. Un responsable associatif peut tout à fait annoncer le choix de son prochain vote, ce n'est pas choquant. Il est en revanche inacceptable que le refuge Angers, dont il est le représentant régional, devienne l'argument d'un pinkwashing qui passe volontairement sous silence toutes les autres réalités homophobes locales que l'association devrait pourtant combattre. À Angers, comme partout en France, on ne transige pas avec les homophobes de quelque bord politique, qu'il ou qu'elle soit. Fussent-ils du sien à Angers, comme partout en France, on ne transige pas avec les LGBT-phobies.
Et comme nous sommes en période électorale, c'est évidemment l'objet de cette réaction de Coisard, on se doit de citer les listes officielles en lice donc sur Angers. Est-ce que tu veux le faire,
bien
Stéphane?
Bien sûr, oui, on va citer les listes qui existent par ordre alphabétique pour être très réglementaire. Il y a Angers Citoyenne et Populaire qui regroupe la gauche républicaine et socialiste, la France Insoumise, le parti animaliste animé par Claire Schweitzer et Jamel Blanchard. Il y a la liste Aimer Angers, parti socialiste, parti radical de gauche, place publique, menée par Sylvia Camara-Tombini et Stéphane Le Floch. Il y a la liste Angers écologie et solidaire avec les partis Europe écologie les Verts, Nouvel Élan, Génération, parti communiste français, menée par Yves Aurégan et Anne-Sophie Hoquet. Il y a Angers pour vous, les Républicains, La République en marche, Modem, Agir, Mouvement radical, mené par Christophe Béchu. Il y a la liste Choisir Angers, Rassemblement national, pour ceux qui ne seraient pas ex, Front National mené par Olivier Douet. Et enfin, la liste, la sixième et dernière, Faire entendre le camp des travailleurs, Lutte ouvrière, menée par Cécile L'Huillier et Yann Béliard.
Merci Stéphane. Je crois que tu as vraiment tout dit, c'est complet, c'est clair. Et puis merci d'avoir énuméré toutes ces listes. Ça, c'est un exercice moins facile. On va enchaîner. Anne, tu nous entends toujours ?
Mais oui, je suis là. J'écoute avec passion. Je veux dire que j'ai fait waouh plusieurs fois.
Et je crois maintenant, Anne, que tu veux revenir. On chamboule un petit peu le contenu de notre émission parce qu'on a des absents, vous l'avez entendu tout à l'heure. Alors peut-être qu'il va te falloir un petit instant pour te mettre en jambe et revenir sur la journée du 8 mars, la journée du droit des femmes.
C'est-à-dire que pas que sur la journée du 8 mars, évidemment, on va reparler peut-être de la cérémonie des Césars. Parce que là, franchement, une manif à trois, mais une belle manif, quoi. Alors donc, la cérémonie des Césars, je sais pas, vous l'avez vu, vous en avez peut-être entendu parler.
Oui, oui, on l'a suivi, enfin on l'a pas vu en direct, mais forcément c'était incontournable hein, cette année.
Alors donc, vous avez vu les réactions suite, pendant la cérémonie du César, à la remise du prix de la meilleure réalisation, qui, soit dit en passant, est quand même le plus personnel de tous, puisqu'il récompense une personne, pas comme le prix du meilleur film qui récompense une équipe, ou le prix du scénario, ou le prix de l'éclairage, qui eux aussi récompensent non seulement des métiers, mais aussi des gens qui interviennent pour dire comment on fait, etc., etc. Non, 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 ce prix personnel a récompensé donc Monsieur Polanski tout seul. N'oublions pas que Monsieur Polanski, à ce moment-là déjà, était accusé par une douzaine de femmes de violences sexuelles. Eh bien, les réactions se poursuivent malgré le coronavirus sur tous les réseaux, enfin sur les réseaux sociaux et les médias. Il y a beaucoup de gens qui ont applaudi au geste fort d'Adèle Hanel, qui, à l'annonce de la récompense de Monsieur Polanski, a quitté la salle en criant « c'est la honte ». Mais sur ces mêmes réseaux et médias, des personnalités du cinéma et de la culture ont critiqué sans vergogne l'attitude en forme de révolte de l'actrice qui a témoigné avoir été harcelée quand elle était jeune. Ah, ça, quand il s'agit de dénigrer la parole des femmes, il y aura toujours des gens, pas que des hommes, pour se déclarer présents. On avait déjà eu droit, lors de la sortie du film J'accuse, à Jean Dujardin expliquant qu'il était fatigué de MeToo. Depuis les Césars, c'est le défilé sur les plateaux de télé, à la radio, la palme, si j'ose dire, revient sans doute à l'acteur Lambert Wilson, qui pour la promotion était là pour la promotion du film De Gaulle, et qui a notamment déclaré « Qui sont ces gens? Ils sont minuscules !» ajoutant « Cette espèce de politiquement correct, je trouve que c'est du terrorisme. » Bon, toujours les mêmes mots pour dénigrer la parole des femmes, pas que des femmes, hein, mais là, dans ce cas, c'était ça, surtout si elle est politique. Comment aussi ne pas ressentir un malaise profond en lisant certaines réactions au discours de l'actrice noire Aïssa Maïga, autrice de « Noir n'est pas mon métier ». Dans un silence glacial, elle a pourtant parlé diversité et inclusion en signalant que les rôles assignés aux personnes racisées dans les films étaient encore trop stéréotypés, concluant son discours par « Quand vous êtes dans les instances de décision, dans les lieux où on décide, où vont les financements, pensez inclusion », a-t-elle exhorté. Vraiment, ça passera par vous aussi, parce que nous, on n'est pas assez nombreux et on n'a pas toutes les clés. C'est rigolo. J'ai l'impression d'avoir entendu ça il y a quelques minutes à propos des politiques. Des fachos, tous ces gens-là, mais pas que. On peut notamment citer l'essayiste lesbienne Caroline Fourest, critiquant sur Twitter un discours identitaire et victimaire. Jusqu'à Nadine Morano, sans doute en mal d'exposition médiatique, je ne sais pas, qui lui a carrément conseillé de retourner en Afrique. Pour beaucoup, une femme qui parle politique, qui s'attaque au patriarcat, qui ose pointer les discriminations fondées sur l'origine, c'est déjà difficilement supportable. Mais en plus, si cette femme est même pas blanche, quoi, c'en est trop. Deux jours avant la Journée internationale des droits de l'homme, cette dernière séquence a révélé qu'il reste tellement à faire. Mais trois femmes lesbiennes, Virginie Despentes, Adèle Hanel et Siama, le trio magnifique, nous ont montré la voie. Et elles doivent être saluées comme telles. Ce n'est sans doute pas pour rien, même si ça n'a jamais été discuté, que leur amour des femmes les a conduites à adopter une posture, disons, radicale. Radicale, le geste d'Adèle Haenel, le soir des Césars. Radicale, la tribune de Virginie Despentes dans Libération, qui se conclut par ces mots, on se lève et on se casse. C'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On n'est pas forcément d'accord avec tout ça. Mais bon, franchement, ça jette. Mais puisqu'il est question aussi d'art radical, aussi le film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, par le regard que la réalisatrice propose, c'est pas par hasard qu'il rencontre un énorme succès dans de nombreux pays, dont les États-Unis et la Corée du Sud. Alors qu'en France, la plupart l'ont snobé. Puisque la parole des femmes compte, je laisse quelques femmes qui mènent le combat pour leurs droits conclure. Angela Davis, par exemple. « Je n'accepte plus les choses que je ne peux pas changer. Il est désormais temps que je change les choses que je ne peux pas accepter. » Beyoncé, mais oui, Beyoncé. « Je n'ai rien à prouver à quiconque. » Et Ruth Bader Ginsburg. « Quand on me demande parfois quand y aura-t-il assez de femmes à la Cour suprême des États-Unis, et que je réponds « quand il y en aura 9 », les gens sont choqués. Mais il y a eu 9 hommes, et personne n'a jamais posé de question à ce sujet, à ce que je sache. Et puis, un petit florilège des panneaux aperçus lors de la manifestation du 8 mai qui a rassemblé 60 000 manifestantes à Paris, selon les organisatrices, et beaucoup d'agents de police à la fin qui ont mis des personnes en prison après leur avoir marché dessus. Donc, moins de patriarcat, plus de Céline Sciamma. J'aime bien celui-là. Moi aussi, j'accuse César de la honte. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. Sur un manteau. Despentes présidente, Sciamma à la culture, Haenel à l'armée. Moins de patriarcat, plus d'Aïssa Maïga. On se lève et on se barre, bien entendu repris de multiples fois. Jeune fille en feu partout, justice nulle part. Une photo de Adèle Haenel au moment où Roman Polanski se voit attribuer le film de la meilleure le prix de la meilleure réalisation. La tête que tu fais quand tu apprends que Popol a reçu le César de la meilleure réalisation. C'est terminé, on se lève, on se casse, on gueule, bon, etc. Nous sommes toutes des jeunes filles en feu. À la guerrière toutes, merci Adèle, merci Virginie. Et un tag, ça c'est pas bien, il faut pas faire les tags sur les murs. Adèle présidente, qui s'est retrouvée sur plusieurs murs de Paris. C'est bien, il faut pas faire, c'est mal, il faut pas faire des tags. Voilà, un petit résumé de avant le 8 mars et puis de la lutte qui continue. N'est-ce pas Stéphane ? Continuons la lutte, on finira par arriver quelque part.
On peut en profiter d'ailleurs pour rappeler à notre mémoire la personnalité de Toni Marshall qui vient de disparaître aujourd'hui et qui au César était la seule femme réalisatrice à avoir obtenu le César pour en tant que meilleure réalisatrice. Donc c'est à saluer. Et puis c'était une femme engagée qui était venue au 400 coups à Angers présenter un de ses derniers films. C'était vraiment une femme super. Donc on pense bien à elle et à sa famille.
Et puis au sujet du César, on peut revenir aussi sur l'intervention le lendemain ou le surlendemain de Bruno Retailleau sur l'antenne de France Inter. Bruno Retailleau, il est président du Conseil Général de la Vendée, où il a été jusqu'en 2015. Il est aujourd'hui sénateur. Il a été aussi membre du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers. Enfin, en tout cas, dans les Pays de la Loire, on le connaît bien. Et Bruno Retailleau, quand on l'a interrogé sur la réaction, donc les réactions qu'ont suscité ce César, donc pour Roman Polanski, on va le citer, hein, tant pis, même si c'est un gros mot aujourd'hui, il a répondu oui, alors je sais pas quoi dire, par contre je m'étonne que personne ait été aussi surpris, choqué, agacé qu'on ait remis un César à Ladjly pour son film Les Misérables, puisque lui aussi il a été condamné par la justice. Alors c'est dommage que j'imagine que Bruno Retailleau ne nous écoute pas ce soir, mais enfin, j'ai été particulièrement agacé que les journalistes qui l'interviewaient ne lui ont pas dit « bah oui, mais il a été condamné ». Comme Polanski, mais il a purgé sa peine, c'est toute la différence quand même. Voilà, donc c'est à préciser parce que en effet, quand on fait une connerie et si on va en prison comme c'est son cas, un certain nombre d'années et qu'ensuite, en sortant, on explique comme il l'a fait, qu'il a compris ses erreurs. Et c'est vrai que c'était pas très joli, hein, et c'était pour séquestration, donc c'était pas terrible non plus. En tout cas, pas d'agression sexuelle de sa part, que les choses soient claires. Voilà, je trouve que c'était un peu puant cette remarque de Bruno Retailleau et je me demande si c'est pas la couleur du réalisateur qui lui déplaît.
Oh, forcément, sans
doute. Oui, je le pense aussi. Voilà.
Et sur cette thématique, là, on peut saluer la marche non mixte qui a été organisée, notamment par le collectif Émancipation et qui a réagi très fortement aux violences policières que l'on a pu voir sur les réseaux sociaux, voire à la télévision. Et elle conclut leur communiqué. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, féministes et radicales et en colère. Merci aux meufs de la Grande Ourse, aux copains et aux copaines de Luciole de Sud Étudiante et aux colleuses pour l'orga du week-end non mixte et à tous les soutiens féministement, le collectif Émancipation.
Oui, parce que Anne, tu l'as dit rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut parler quand même de la réaction policière à l'occasion de cette marche sur Paris.
Ah, ça, c'est sûr que
c'était...
la réaction policière a été... n'oublions pas quand même qu'il semblerait que le tracé de la manifestation n'a pas été respecté. Hein.
Alors,
donc là... ont défendu Paris contre les femmes... Hein. En attaquant des femmes de dos, en les traînant dans les escaliers du métro, en marchant dessus, en leur tapant dessus.
Et surtout...
Et en les mettant en prison dans des conditions qu'on pourrait qualifier de...
Déplorables. Et surtout...
Dégueulasses.
Et surtout, en les insultant avec des
Absolument.
Insultes très sexistes. Très
oui.
sexistes.
Ah bah oui. Non, mais enfin là, je... J'en ai même pas parlé parce que c'est une... Enfin, ça me semblait évident. Les bonnes femmes, c'est pas fait pour être là. Il y a quoi ? Les bonnes femmes, c'est fait pour marcher là où on leur dit de marcher. N'est-ce pas ? Par exemple, qui est vraiment extraordinaire, ça, c'est formidable. Et c'est vraiment honteux. Bon.
En tout cas, une chose est certaine, c'est que les lesbiennes de Quasar, elles battent le pavé. Hein. Normalement, c'est prévu.
Oui.
Bon, parfait. Allez, on te retrouve tout à l'heure pour le final. À plus.
Oui. Salut, à tout à l'heure.
Stéphane, maintenant, tu vas nous parler un peu d'une actualité locale et particulièrement de celle de Quasar avec les interventions au milieu scolaire notamment.
Alors, on va commencer par les interventions au milieu scolaire parce qu'elles ont lieu ces jours-ci. Il faut savoir qu'à Cholet, il y a tout un programme d'intervention qui a été mis en place et qui a pour nom Casse-Code, pour casser les codes. Ce sont les étudiants à Cholet qui ont mis ça en place. Ça a commencé lundi avec pas mal de jeux sur le campus. Mardi, il y avait Amnesty International avec un débat. Et puis, hier, il y avait une marche ludique dans le Jardin du Mail à Cholet, avec des stands. Et Quasar était présent avec des personnes du pôle éducation-formation qui ont répondu à une quarantaine de personnes qui sont venues prendre des informations. Et puis, ça se terminera vendredi par l'exposition de la semaine. Parallèlement, toujours à Cholet, Quasar est en intervention en milieu scolaire, ce jeudi et demain également.
On va attendre. Interrompre
oui.
Stéphane,
vas-y.
Parce qu'on vient d'apprendre, ben Nicolas, je t'en prie, Macron est intervenu à l'occasion du coronavirus et il faudrait qu'on ait confirmation de l'information.
Dis-moi.
Mais il vient d'annoncer que les crèches, les écoles, les collèges, les lycées seraient fermés à partir de lundi.
Ça, c'était dans l'air du temps. Il y avait même l'idée qu'il annoncerait potentiellement le report des élections. Donc, question à suivre de près. Donc, je termine concernant...
Actuellement, donc, il va parler des élections dans un instant certainement. Mais restez avec nous.
On peut... c'est ça. On a encore 7 minutes, 6 minutes. Donc, peut-être qu'on vous aurait l'information directement en direct. Je disais donc qu'il y aura demain et si la suite de l'intervention milieu scolaire qui a commencé aujourd'hui, de 9h à 16h avec l'interruption pour le déjeuner bien évidemment, de 8 créneaux au total avec 8 groupes et une dizaine de membres du pôle éducation et formation, je cite comme ça au hasard, Sarah, Bernadette, Pauline, Christelle, Marion, Ludo et Paul peut-être qui sont tous là-bas à Cholet, bon, qui reviennent et qui retournent demain matin à Cholet et qui vont pouvoir rencontrer tous les élèves et c'est effectivement terriblement important. Et puis, il me faut vous citer quand même un certain nombre de dates parce que certes il y a l'actualité du coronavirus mais dans l'hypothèse où certaines manifestations à moins de 1000 personnes seraient maintenues, je dis bien seraient, sachez que mardi 17 mars prochain à 19h à la faculté de droit d'économie et de gestion il y aura dans le cadre de la semaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, le collectif réfugié de l'université qui propose la vision et la conférence autour de la diffusion du film Les Faussaires de l'Histoire et c'est Valérie Higounet, historienne qui sera l'invitée comme l'an passé, la thématique était les théories du complot et bien la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme organisée à l'Université d'Angers revient à nouveau sur les risques liés au conspirationnisme et à la haine en ligne d'ailleurs Valérie Higounet présentera les actions de l'Observatoire du conspirationnisme le 21 mars, si tout va bien, le groupe de parole sur le vécu de la double identité croyant et LGBT+, croyant plutôt sur d'obédience catholique, se réunira. Le lieu n'est pas encore choisi. Vous irez sur Facebook pour regarder si l'actualité le permet, la présence ou pas de ce groupe et ça, le maintien de la réunion. Les questions qui seront abordées, c'est comment est-ce que je vis cette double identité, croyant et LGBT? Est-ce une difficulté ou plutôt une force? Est-ce que je me reconnais dans l'une ou plus que l'autre? En tant que parent ou proche, comment est-ce que je me positionne? En tant que parent ou proche, comment est-ce que cette double identité est-elle évidente ou difficile à comprendre? Également à noter, toujours pour Angers, organisé par l'université dans le cadre du mois du genre qui bat son plein à l'université, la 15e journée d'études du cycle Histoire et mémoire des déportations, mercredi après-midi 25 mars de 14h à 18h à la passerelle au campus Belle-Beille à l'université sur le thème homosexualité représente répression et déportation où un certain nombre d'historiennes et d'historiens viendront s'exprimer pour parler des traces mémorielles de cette répression, des différences de traitement entre les homosexuels et les lesbiennes, les monuments dédiés à la mémoire de la déportation homosexuelle en France et en Europe et puis évoquer tout ce qui est de l'ordre de la mémoire et des grandes figures. C'est un temps qui est proposé par Yves Denecher, Christine Barre et Dominique Sago-Duvourou. Voilà pour les news. Et puis pour ce qui concerne Quasar, alors soyons bien clairs et parlons coronavirus, puisque c'est le moment ou jamais. Le conseil d'administration de Quasar a pris des décisions, évidemment, et que si nous montons en stade 3, ce qui, d'après les informations qu'on peut entendre ça et là, eh bien, nous serons contraints et forcés de mettre un terme à toutes les réunions qui ont lieu avec du public et en nombre dans le local de Quasar, 15 rue de Jérusalem, dans le quartier des Deux Croix et Banchet. Donc normalement, si tout va bien, la conviviale aura lieu vendredi 20 mars et la Pride, la marche des fiertés lesbienne, gay, bi, trans et intersexe plus, est normalement programmée le 16 mai, mais mystère, mystère, puisque évidemment, on ne le sait pas, on ne le saura que tardivement, mais nous préparons comme il se doit la nécessaire organisation et la préparation de l'ensemble des groupes et manifestations de la Pride.
Juste, je vais lancer.
Tu peux y aller.
y aller.
Oui, merci. Et je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, les élections sont maintenues. Il vient de l'annoncer. En revanche, ils vont bien fermer les établissements scolaires. Voilà, merci beaucoup, Stéphane.
Donc, on ne va pas à l'école demain matin.
Lundi.
Lundi, ah, c'est lundi.
Demain,
c'est...
nous ne sommes que vendredi.
Ah oui, donc demain, il faut encore aller à l'école.
Et oui, absolument, je suis désolé.
On n'a pas de chance.
Merci beaucoup à Nicolas d'avoir été présent avec nous, de nous avoir soutenus ce soir. Merci Anne qui nous entend encore.
Oui, je suis là et j'ajoute que l'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints de rester chez eux.
Pour garder leurs enfants, c'est ça?
Ouais.
Ok.
Ça marche. Allez, grosse bise.
Bye bye, à dans deux semaines.
Bye. Merci, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. La semaine prochaine, à la même heure, vous vous retrouverez Tonix Live. Quant à nous, vous nous retrouverez donc dans une quinzaine, toujours à 20h, pour cette émission de Quasar on the Air, le rendez-vous radiophonique de Quasar, le centre LGBTI+, d'Angers et du Maine-et-Loire. On vous souhaite une très bonne fin de semaine et une bonne fin de soirée en compagnie de Thierry pour SOB Son of the Blues, le blues mondial dans tous ses états. Bonsoir Thierry.
Ciao.
If you're gay, then you're gay. If you're straight, well, that's great!